Bonjour. Bonjour à tous. On espère que vous avez pu venir hier soir à notre belle soirée avec Monique Lépine. C'était vraiment excellent. Quel témoignage. Elle a vécu tout un drame, hein, comme vous savez. On aimerait vous dire que si jamais vous n'avez pas pu vous rendre hier soir et venir, on m'informe ce matin que c'est déjà disponible sur le site de l'Église. Alors, vous pouvez aller sur le site et vous allez trouver le témoignage là. Ou j'imagine aussi, si vous voulez avoir un CD, vous pouvez vous le demander à l'arrière. Alors, on aimerait vous demander de prier pour notre chère Huguette Forêt. Huguette qui est probablement encore à l'hôpital. Son fils, vendredi, était sur la 105. Et il a fait un face-à-face, si j'ai bien compris. Si bien qu'il est cliniquement mort. Et ils attendent même de débrancher parce qu'il a fait don d'organes et tout ça. Donc, imaginez Huguette qui perd son fils. Donc, elle a vraiment besoin de nos prières. On entre dans cette période de Pâques, comme vous savez, et ce matin, on veut parler de la crucifixion de Jésus-Christ. On veut s'arrêter sur le sacrifice de Jésus-Christ. La semaine prochaine, on va regarder la résurrection. Et vous savez, la crucifixion, on n'a pas beaucoup de détails dans la Bible de la crucifixion, aussi bizarre que ça puisse sembler. Probablement, c'est parce que les gens du premier siècle étaient tellement habitués d'en voir, ils en voyaient à coups de milliers. Nous, on a pu avoir une bonne idée de ce que c'est, de ce que ça représente, en voyant des films comme Mel Gibson. Vous savez, Mel Gibson, le film de la Passion, a dépensé des millions et des millions, et il a mandaté des chercheurs qui ont travaillé très fort pendant des années, pour s'assurer qu'ils avaient toutes les données et importantes pour comprendre comment ça se faisait. Et les données, toutes les trouvailles ont validé les quelques détails que nous avons de la crucifixion dans le Nouveau Testament. Et c'est évident que c'était atroce, c'était épouvantable comme souffrance, on va le voir dans un instant. Ça remonte à plusieurs siècles, même avant Jésus-Christ, 9 siècles avant Jésus-Christ. D'ailleurs, un personnage que la Bible connaît bien, le personnage qui est bien connu dans l'Ancien Testament, est un dénommé Darius. Darius qui va faire crucifier 3000 Babyloniens lorsqu'il a conquis le pays. Un peu plus tard, Alexandre le Grand fera crucifier 2000 personnes lorsqu'il a vaincu Tyr. Et 71 ans avant Jésus-Christ, l'ancien gladiateur Spartacus, qui va monter tout un complot, va se faire prendre avec 120 000 prisonniers, finalement, par les Romains. Il sera conquis, il sera vaincu. Et 6 000 de ces prisonniers seront crucifiés par les Romains. Maintenant, les Romains ont perfectionné l'art de la torture. Ils ont amené la crucifixion plus loin. D'ailleurs, ce sont les Romains qui sont les premiers à avoir commencé à crucifier sur des croix. Et ils se sont spécialisés à faire endurer, à prolonger la souffrance, la douleur, le martyre. Donc, ils se sont spécialisés à faire infliger la torture. Ils voulaient rehausser la souffrance, mais pas juste ça, ils voulaient prolonger l'agonie aussi. La douleur de la crucifixion était si intense qu'il y a même un mot qui a été inventé. Le mot en anglais « excruciating » vient en fait d'un mot latin qui veut dire, c'est deux mots qui veut dire « de la croix ». Alors, ce mot qu'on peut traduire en français par « torture », par « tourment », « atroce », « atrocité », vient en fait de cette expression qui vient de la croix. La victime était attachée soit par des cordes ou par des clous, et la douleur était due au fait que la crucifixion prolongeait l'agonie, si bien qu'on finissait par mourir par asphyxie. Vous pouvez comprendre avec le poids de tout le corps, le corps s'affaissait vers le bas, écrasait la poitrine, les poumons, et chaque fois, le prisonnier devait se donner des coups vers le haut pour essayer d'aller chercher un peu d'air. Maintenant, il y a certains crucifiés qui pouvaient rester, ils pouvaient être accrochés sur la croix pendant 3 heures, 4 heures, mais ça pouvait durer jusqu'à 9 jours. Vous pouvez imaginer 9 jours. Certaines personnes perdaient connaissance, évidemment, puis quand ils se réveillaient, ils essayaient de se remonter sur la croix pour aller chercher un peu d'air, et ça pouvait durer des jours et des jours. Et ça avait lieu au grand public. Alors, si vous pouvez imaginer quelqu'un qu'on va clouer sur une croix juste à l'entrée des promenades de l'Outaouais, nu, qui est là et à la vue de tout le monde. Alors, c'était très humiliant, méprisant. La foule s'amassait autour de la victime et se moquait de lui, crachait au visage. Maintenant, une fois morte, certaines victimes restaient là sur le bois. Ça dépendait si tu avais une famille. Si tu n'avais pas de famille, tu restais là. Maintenant, si tu avais une famille, les gens venaient prendre le corps puis l'enterrer. Mais si tu n'avais pas de famille, le corps pouvait rester là pendant des jours et des jours, si bien que les oiseaux, les vautours venaient commencer à manger le corps et des os tombaient à terre. Les chiens venaient et grignotaient sur les os. D'ailleurs, un personnage du nom de Suétone qui a existé dans les premiers siècles a écrit un volume, principalement connu pour tout un volume qui s'intitule « La vie des 12 Césars », va raconter qu'il y a même des chiens qui venaient et prenaient des mains ou des pieds et les emmenaient plus loin pour aller manger. Maintenant, dans certains cas, les autorités romaines faisaient exprès pour crucifier certains prisonniers et les mettait au même niveau que la foule, à la même hauteur. C'était pas toujours élevé. On faisait exprès parfois pour les mettre à la même hauteur de la foule, si bien que la foule pouvait arriver tout proche, se moquer de lui, cracher au visage du prisonnier. Et ça allait dans les deux sens, parce que certains prisonniers avaient plein, évidemment, de colère et tout ça, par le mépris, la moquerie, tout ça. Et certains prisonniers se vengeaient et à leur tour blasphémaient la foule, crachaient au visage de la foule. Et même certains urinaient sur la foule pour se venger. Alors, moi, quand je regarde ça, je ne peux pas faire autrement que de penser à l'attitude de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la croix. C'est frappant de voir Jésus sur la croix. Qu'est-ce qu'il fait alors que les gens se moquent de lui, alors qu'on vient de le crucifier injustement, alors qu'il vient de passer plus de 6 procès, des faux procès, illégaux, aucun droit, aucune justice. Et il est là, les gens se moquent de lui, on vient de le fouetter, de martyriser, on plein de mépris, on blasphémait contre lui. Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il commence à prier pour les gens. Et il dit, Seigneur, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne comprennent pas. Imaginez l'amour de Jésus-Christ sur la croix. Même sur la croix, il est encore en train d'intercéder pour nous. Incroyable son amour. L'historien Flavius Joseph, qui vivait à l'époque de l'Antiquité, disait que la crucifixion était la plus cruelle des morts. Sur toutes les exécutions qu'on pouvait donner, c'était vraiment la plus cruelle des morts. Cicéron, un grand orateur de l'époque de l'Antiquité, appelle d'ailleurs les citoyens romains à ne même pas mentionner la crucifixion, puisqu'il disait, il s'agit d'un supplice infâme. Un supplice infâme. Une bonne manière de décrire les souffrances de Jésus-Christ. Jésus a subi ces humiliations des chefs religieux. On l'a fouetté. Et les fouets, vous savez comment ils étaient construits? Ils étaient construits avec des lanières, si bien qu'au bout, parfois, on avait des billes. Et d'autres fois, on mettait des os bien affilés. Et quand on frappait, dans le cas de Jésus, avec deux soldats qui se relayaient à tour de rôle pour le frapper le dos, ces petits morceaux d'ossements, des os bien affilés, labouraient le dos, si bien qu'un médecin, c'était tellement douloureux, qu'un médecin qui a comparé la douleur qu'on avait à une balle de fusil qu'on vient de recevoir. Imaginez, c'est comme être atteint d'un projectile d'arme à feu, tellement que les dommages des coups de fouet étaient sérieux. Et c'est dans cet état qu'on va demander à Jésus, après l'avoir fouetté tout ça, de prendre sur lui ce qu'on appelle un batibulum, c'est le bout droit, de le mettre sur lui 45 kilos et faire 1,6 km pour se rendre à l'endroit où il sera exécuté. Évidemment, avec les fouets, les coups et tout ça, plusieurs ne survivaient même pas des coups de fouet. Ils ne se rendaient même pas à la croix. Ils mouraient juste là par les coups de fouet, tellement c'était sérieux, c'était labouré, le dos était déchiqueté, qu'il y a bien des gens qui mouraient juste là. Alors Jésus, avec le poids, c'est 45 kilos sur les épaules, après avoir subi ce qu'il a subi, s'écrase sur le sol. On viendra prendre le bois et aider à faire cette marche de plus de 1 point quelques kilomètres. Arrivé au lieu d'exécution, Ésaïe 50 nous apprend qu'on va lui arracher la barbe, ce qui représente, dans la culture du monde ancien, l'ultime manque de respect. On lui crache au visage, on se moque de lui devant sa famille et ses amis. Dans Ésaïe 53, verset 3, on peut lire ce verset qui dit ceci. « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. » Dans la souffrance, humilié, rejeté, il prononce ces dernières paroles que nous pouvons lire dans ce passage que j'aimerais vous inviter à venir me rejoindre pour le lire, dans Jean chapitre 19. Jean, dans l'Évangile de Jean, chapitre 19. Verset 28. On va commencer au verset 28, Jean 19, 28, qui dit ceci. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase de vinaigre, plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Tout est accompli. Maintenant, si la croix est un supplice infâme et la mort la plus cruelle, il s'avère que la croix est devenue le symbole le plus célèbre de l'histoire. Déjà d'ailleurs au 2e siècle et 3e siècle, ce père de l'Église Tertullien nous dira que les premiers chrétiens faisaient un signe de croix déjà sur leur corps, où ils portaient une croix autour du cou, mettaient des croix dans leur maison pour célébrer la mort de Jésus. Alors les premiers chrétiens ont donc changé ce qui représentait un symbole de terreur et d'intimidation, et ils en ont fait un symbole de salut et d'espoir. On va se poser la question, mais comment est-ce possible? Comment un supplice infâme, la plus cruelle des morts, peut devenir une source d'espoir? Comment la crucifixion de Jésus-Christ peut-elle être une bonne nouvelle? Eh bien, c'est que la crucifixion de Jésus-Christ est une bonne nouvelle, car nous pouvons maintenant, nous avons maintenant, par Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous avons maintenant accès à Dieu. Nous pouvons avoir une relation personnelle avec Dieu. Une fois crucifié, Jésus lance ce cri de triomphe à la foule. Il dit « C'est accompli ». À ce moment-là, Jésus savait que le paiement pour le péché, pour le mal, fut accompli. Et la sainteté de Dieu, sa justice et sa colère est satisfaite par le sacrifice de Jésus-Christ. Dans Luc 23, vous voyez si Jean, c'est une erreur, en fait, c'est Luc 23, 46, c'est écrit « Jésus s'écria d'une foi forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Jésus a gardé son dernier souffle pour crier sa victoire triomphante au monde. Maintenant, il allait retourner à Dieu, son Père, après s'être offert en sacrifice. Et là, il rendit l'esprit. Jésus est resté sur la croix pendant 6 heures. Et entre midi et 3 heures, la parole nous dit dans Marc 15 qu'il y eut des ténèbres. Lorsqu'un corps dérangeait un événement, ce qu'on faisait pour accélérer la mort, parce qu'on ne voulait pas laisser le corps là traîner, alors ce qu'on faisait, c'est qu'on passait et on s'assurait, on tuait les prisonniers qui étaient encore vivants en brisant les deux jambes, de sorte que le corps s'affaissait sous le poids et incapable de respirer, on mourait là. Mais comme la parole l'avait déjà dit des centaines d'années avant, avait déjà prédit qu'on ne toucherait pas aux os, on ne briserait pas les os de Jésus. Lorsque les soldats sont arrivés devant Jésus, Jésus était déjà mort. C'est donc Jésus qui a déjà décidé, qui avait décidé souverainement quel serait le moment où il allait mourir. Et pour s'assurer que le prisonnier était bien mort, il perçait le côté, et c'est ce qu'ils ont fait. Et pour percer le cœur, l'enveloppe du cœur, et c'est ce qu'on fait avec Jésus-Christ. La bonne nouvelle de la crucifixion est que nous pouvons maintenant avoir une relation personnelle avec Dieu, car Jésus nous a donné accès à Dieu. Et Jésus, grâce à Jésus, nous pouvons maintenant entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, le temple, pendant plusieurs années, le temple était l'endroit le plus sacré sur terre, car Dieu résidait derrière un voile dans un lieu qui s'appelait le lieu très saint. Et personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint, sauf un, le souverain sacrificateur, et seulement une fois par année. L'image que vous avez ici est un dessin, c'est une reproduction du temple de Jérusalem qui a été fait, fondé sur les données que les excavations, les archéologues ont trouvées depuis les recherches qui ont été menées depuis 1967. On a reçu plusieurs informations et là, on a reconstitué le temple, finalement, que Jésus aurait connu. C'est le temple d'Hérode qui avait été refait, rebâti, parce qu'il avait été l'autre temple avant. Le temple de Salomon avait été détruit par la guerre. Maintenant, c'est le temple que Jésus aurait visité. Et dans le temple était, il y avait plusieurs sections dans le temple. Il y avait la grande cour que vous voyez. On entre dans la grande cour. Et après ça, tu avais le temple dans le milieu. Et à l'intérieur du temple, tu avais ce lieu saint. Mais au bout, comme vous voyez derrière ce voile, il y avait un voile en plein, juste avant d'entrer dans le lieu très saint, qui empêchait les gens d'entrer. Tu ne pouvais pas entrer là, sauf le souverain sacrificateur. Et une fois par année, le souverain sacrificateur choisissait deux boucs parfaits, sans tache. Il prenait un bouc et il l'offrait en sacrifice. Il fallait couler son sang parce que le sang représentait la vie. Donc, on offrait la vie du bouc à Dieu afin de pardonner les péchés du peuple. Tout le mal et les péchés du peuple étaient transférés sur le bouc et le bouc était offert en sacrifice. Maintenant, le souverain sacrificateur prenait un peu de sang avec son doigt, sa main, et entrait dans ce lieu très saint. Et à la table de proposition, pendant 7 fois, il mettait du sang juste là. Et ce sang était offert à Dieu. Et c'est ainsi que les péchés du peuple étaient pardonnés par Dieu. Dieu acceptait ce sacrifice et les péchés du peuple étaient pardonnés. Le souverain sacrificateur prenait un autre bouc qui était parfait, sans tache. Et cette fois-ci, ce qu'il faisait, c'est qu'il imposait ses mains sur le bouc. Et comme prêtre, il était le médiateur entre le peuple et Dieu. Personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint. C'était le souverain sacrificateur qui était le médiateur. Et il mettait ses mains sur le bouc. Et symboliquement, c'est un symbole très puissant dans l'Ancien Testament qui démontrait que tous les péchés du peuple étaient transférés sur les épaules du bouc. Et le bouc, ensuite, on le laissait partir dans le désert, s'enfuir, et il disparaissait. Et c'était un message très puissant à travers ce symbole où Dieu est en train de dire, « Vos péchés disparaissent devant moi. » Mais voilà que ces sacrifices n'étaient pas suffisants, ce n'était pas parfait. Même si ce souverain sacrificateur entrait et offrait ses sacrifices dans cette journée la plus importante de l'année, le Yom Kippour, qu'on appelait aussi le jour, c'est cette journée sainte de l'année, le jour de l'expiation, où on offrait ses sacrifices, ce sacrifice pour les péchés du peuple. Malgré cela, même si on le faisait chaque année, ce n'était pas suffisant. Lorsque Jésus est mort, lorsqu'il s'est offert en sacrifice pour nos péchés, voilà que le voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Laissant entendre par cela, par ce miracle, laissant entendre que Dieu maintenant offrait sa présence au monde entier à travers la croix de Jésus-Christ. Dieu était maintenant accessible, il était approchable parce que le sacrifice de Jésus-Christ, lui, était parfait. Et il était acceptable aux yeux de Dieu. Ça me fait penser à Éphésiens 2, 18 qui dit ceci. À travers Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Lorsque tu possèdes Jésus, tu as également accès au Père par le Saint-Esprit. Imagine la Trinité qui est dans ce verset-là. Par Jésus-Christ, on a accès au Père par le Saint-Esprit. Imagine, dès le moment que tu acceptes Jésus, toutes les ressources de la Trinité sont à nous. Est-ce que j'entends des amen ici? Pensez-y. C'est une relation qui est intime et réelle et qui nous aide dans nos moments où nous avons le plus besoin. Dieu sera toujours là, on ne sera jamais seul et toutes les ressources de la Trinité nous sont disponibles maintenant que nous sommes en lui. Grâce à l'accès que nous avons maintenant auprès de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Le terme accès, il s'est employé par Paul, est très important parce que c'était le terme qu'on se servait pour parler de l'officier du roi qui introduisait les visiteurs dans la présence du roi. C'était, tu ne pouvais pas te présenter directement face à face au roi, comme moi je ne pourrais pas aller en Angleterre, entrer dans le château, aller voir la reine. Ça prend cet officier du roi qui t'emmène dans la présence du roi. Et c'est le mot employé par Jésus-Christ. Ça laisse entendre aussi qu'on ne peut pas se rendre à Dieu par nos propres efforts, mais nous avons besoin de ce médiateur qui est Jésus-Christ. C'est par le sacrifice de Jésus que nous avons accès à Dieu. Nous avons le sommaire de tout l'Évangile qui explique ce qui s'est passé à la croix dans 1 Corinthiens 15, qui dit ceci. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Paul est en train de nous expliquer que si Jésus est mort sur la croix, c'est qu'il est mort pour nos péchés. Avez-vous remarqué ce petit mot « pour »?« Pour ». C'est pour le bénéfice de nous. C'est pour nous, pour notre bénéfice que son sang a coulé. Et le sang va revenir très souvent dans les Écritures. Le sang va revenir plus de 362 fois dans l'Ancien Testament et plus de 92 fois dans le Nouveau. D'ailleurs, on va parler plus souvent du sang lorsqu'on parle de la mort de Jésus-Christ, son sacrifice. On va parler plus souvent du sang que d'autres mots. Et la raison, c'est que le sang versé est un rappel que le péché a pour conséquence la mort. En fait, Dieu est le premier à avoir versé du sang. Lorsqu'il a sacrifié un animal pour prendre une peau et revêtir Adam et Ève qui avaient péché pour cacher leur honte. Mais le sang des animaux va continuer, il sera versé pendant des années, chaque année pour pardonner les péchés du peuple. Mais ce n'était pas suffisant pour couvrir et pardonner nos péchés. C'est pour ça que nous lisons dans 1 Pierre 1,18, ce qui suit. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Vous voyez, en Jésus, nous avons une relation avec Dieu, car Jésus nous a donné accès à Dieu. Imaginez quelle ressource. Dieu est avec toi. Toutes les puissances, les ressources de la Trinité sont avec toi. Ça fait tellement une différence lorsque tu fais face à une épreuve de savoir que Dieu est ton bord, n'est-ce pas? L'autre jour, j'étais au concessionnaire. Je suis allé au concessionnaire pour faire un changement d'huile. Et puis, j'aime tellement ça maintenant, les petites étiquettes qu'ils mettent dans la fenêtre pour te rappeler que c'est le temps de faire des changements d'huile. Tu sais, ils mettent des petites étiquettes, ils disent « OK, tant de kilomètres, tout ça ». Sans ça, pendant des années, j'abusais. D'ailleurs, c'est un running gag. Ils disent toujours de jamais acheter une voiture de pasteur. C'est les pires. Je sais pas si c'est encore vrai. Ça a l'air qu'on prend pas soin de nos voitures. Hein, d'accord. Là, depuis qu'on a des petites étiquettes dans la fenêtre, là, je suis pas pire. Fait que là, je suis allé là au concessionnaire pour faire un changement d'huile, puis j'attendais dans la salle d'attente. Vous savez comment est-ce qu'ils font ça maintenant aujourd'hui dans la salle d'attente? Pour faire passer le temps, puis tu mets un grand écran, puis tu regardes la télévision, tout ça. Puis là, mon ami, ils ont mis une ancienne émission, là, c'était la reprise d'une reprise d'une reprise d'une reprise, c'était comme, ouh! Fait que là, on regardait ça, puis j'avais un monsieur qui était à côté de moi, il était souriant, puis ça, il était vraiment drôle. Tu sais, je sais pas si, tu sais, vous faites ça, vous autres, tu écoutes une émission, là, puis tu parles aux gens dans la TV, puis là, il disait, ben voyons, il parlait à la personne qui était dans la TV, je dis, OK, puis là, il prenait ça vraiment au sérieux, il rentrait dans l'histoire, puis tout ça, puis mais moi, je fais ça des fois chez nous. Ça m'est dû arriver. Tu chicanes la personne. « Mais voyons, non, fais pas ça! Mais voyons, cache-toi! Tu vas te faire pogner! » Fait que là, lui, il était vraiment dedans. Là. Lui, là, il écoutait ça, puis il était dedans. Là. Puis là, on commençait à jaser. Il était vraiment drôle. Il arrêtait pas de faire des blagues, tout ça. Il disait, tu vois ses cheveux ont changé, puis tout. Il me semble que ses cheveux, t'as pas comme ça. Ça a changé, là. C'est aujourd'hui, c'est plus pareil. Elle a changé ça, puis ça, je comprends. Dans ma tête, je me dis, je me sens que ça date de 1970, ça, je suis pas sûr, là, mais en tout cas. Fait que, disait que ça avait bien changé, puis on jasait. Tout d'un coup. Alors, là, il arrête. Il regarde le plancher. Puis après ça, il regarde la TV. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, hop, je le dérangerai pas. Il est en train, là, je pense qu'il est dedans. Il écoute l'émission, là, tu sais, ça. Fait que, ben non, c'est pas ça. Finalement, il regarde le plancher, puis tout ça. Puis là, il se retourne d'abord, puis il me regarde dans les yeux, puis il me dit, je viens de me divorcer. Le gars, je ne connaissais pas du tout. La première fois que je le rencontrais, puis il me dit, je viens de me divorcer. Alors, il dit, mais de donc, je viens de prendre ma retraite en décembre dernier, il y a quelques semaines. Je viens de prendre ma retraite. Ma femme est partie. Maintenant, je ne connais pas l'histoire et tout ça. Il y a toujours deux côtés d'une médaille. On dit, est-ce que c'est vrai? Il y a toujours un côté de médaille. Je ne sais pas. C'est des dictons qu'on a, là, mais pas tout le temps. Mais enfin, je ne connais pas l'histoire, mais sans rentrer dans qui a raison ou tort et tout ça, dans ça, moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir la douleur de cet homme-là. C'était frappant. Il me dit, ma femme vient de partir, juste comme ça, là, du jour au lendemain, mon ami. Alors, j'ai posé la question. J'ai dit, est-ce qu'il y avait des signes? Est-ce qu'il y avait des choses qui laissaient croire qu'elle était pour partir? A-t-elle fait des commentaires? Il dit, jamais. Rien, du jour au lendemain. Paf, parti. Il dit, ça a commencé, qu'elle a commencé à aller dans des conférences. Il y avait des hommes qui font des conférences sur le bien-être personnel. Puis il dit, elle a commencé à aller dans ces conférences-là. Puis d'ailleurs, même, je l'ai vu un soir, je sors de la maison, puis elle était assise. Je sors de la maison, juste sur le balcon, elle était assise sur le balcon, puis il y avait un paquet de chandelles allumées autour d'elle, puis elle était assise pour regarder le ciel. Ben, j'ai dit, regardez le ciel, est-ce qu'elle méditait? Il dit, oui, il dit, c'est ça, il dit, elle méditait. J'ai dit, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'elle ne méditait pas la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu a tellement un impact dans la vie d'un couple. J'ai dit, moi-même, là, ma vie de couple, c'était épouvantable là, avant de connaître Jésus-Christ dans ma vie. Je n'arrêtais pas de se chicaner, puis c'était de ma faute. Là. J'étais tellement, ça n'avait pas d'allure, j'avais pas d'allure. Mais vous savez, Jésus est allé à la croix pour nous donner une belle relation avec lui, pour faire des changements dans notre cœur, nous changer. Puis il disait, c'est bon ça. Puis on a pu parler un peu de l'Évangile, puis comment Jésus-Christ, il y a plusieurs passages dans les Écritures qui parlent du mariage et tout ça. On a pu parler un bon bout de temps. Et malheureusement, là, le mécanicien est revenu, puis il a fallu qu'il parte. Là. Mais moi, ça me frappait de voir la douleur, la tristesse de cet homme-là. Lui qui faisait tellement de blagues, qui riait tellement. Vous savez, il y a un verset qui dit, au milieu même du rire, le cœur peut être dans la peine. J'avais un exemple devant moi tellement frappant, comment cet homme-là, il était découragé, désespéré. Mais comme c'est encourageant pour nous de savoir que lorsque tu as le Seigneur dans ta vie, tu as toute la Trinité qui est avec toi pour venir te secourir, t'encourager dans ces moments qui sont difficiles, dans ces moments d'épreuve où tu te sens seul, tu te sens découragé. Puis, et là, Dieu vient et met un baume sur ton cœur, puis t'encourage et te relève, même au milieu des difficultés. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut maintenant s'approcher de Dieu. On peut s'approcher de Dieu. On a accès à Dieu. Et il va nous encourager dans les moments difficiles. Il va toujours rester avec nous. On ne sera plus jamais, jamais seul. Dieu est toujours là, à tes côtés. Puis il est avec toi, puis il est pour toi. Dieu est maintenant accessible. En Jésus-Christ, nous avons une relation avec Dieu, car Jésus nous donne accès à Dieu. Mais non seulement ça, il y a quelque chose de très gros, qu'on ne connaît pas beaucoup nous autres au Québec, on n'entend pas souvent parler de ça. C'est qu'il nous fait entrer dans une nouvelle alliance. Le mot alliance, ici au Québec, on n'entend pas ça souvent. Mais vous savez, ça revient quand même plus de 300 fois dans la Bible. Un mot très important. D'ailleurs, si vous étiez pour visiter l'hôpital juif à Montréal, la dernière étage, le premier étage, plutôt le sous-sol, en fait, il y a même une salle qui s'appelle la salle de l'Alliance. Les Juifs, ils comprennent l'importance de cela, le Brit Room. Et si nous sommes en Jésus, nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance. Vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce que ça change? Vous savez, ça a été prédit, ça a été annoncé et promis plus d'une fois dans l'Ancien Testament qu'un jour viendrait, qu'on entrerait dans une nouvelle alliance. Et ce qu'on apprend dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ est celui qui inaugure cette nouvelle alliance. Alors, ça change quoi? Bien, laissez-moi vous en nommer juste quatre. Ça change bien des choses, mais juste quatre, si on aura le temps juste pour voir ça très rapidement. Un, nous n'avons plus besoin de prêtre. Vous savez, ce médiateur dont je vous parlais tantôt, l'Ancien Testament, ou qui rentrait une fois par année, ce souverain sacrificateur qui rentrait dans la présence de Dieu, ça c'est fini maintenant. Le médiateur, c'est Jésus-Christ. Il est le seul médiateur, nous dit Timothée. Il est notre médiateur. On n'a plus besoin de prêtre comme tel. Il est notre prêtre. Il est le prêtre parfait et il intercède pour toi en ce moment au ciel. Deuxièmement, on n'a plus besoin d'offrir de sacrifice. Il est notre sacrifice. Nous avons été justifiés par son sacrifice. Un mot important, c'est qu'il va revenir plus de 200 fois dans le Nouveau Testament. On a pu à vivre dans une perpétuelle culpabilité avec le sacrifice qui a été offert par Jésus-Christ. Parce que maintenant, nous sommes déclarés justes, non coupables, parce que nos péchés ont été transférés sur ses épaules. Lorsque Jésus a déclaré « c'est accompli », il venait de déclarer que la justice de Dieu avait été satisfaite. C'est pour ça qu'on va retrouver un autre mot dans le Nouveau Testament, le mot « propitiation ». Rendre Dieu propice, qui veut dire que Dieu maintenant a été satisfait. Nous sommes maintenant en paix avec Dieu. Il y a une paix entre nous. Nous ne sommes plus ses ennemis. Nous sommes maintenant ses enfants. Parce que vous savez que Dieu n'est plus en colère contre moi ou contre vous à cause de vos péchés. Et la colère de Dieu va revenir souvent dans les Écritures. Dieu est un Dieu qui ne peut tolérer le péché. Il va y avoir 20 mots différents pour parler de la colère de Dieu dans les Écritures. L'Ancien Testament parle de la colère de Dieu plus de 600 fois et 25 fois dans le Nouveau Testament aussi. Alors, on peut apprécier la propitiation, que Dieu était rendu propice. Il n'est plus en colère contre moi parce que Jésus-Christ a pris mes péchés. C'est réglé. On a été réconcilié avec Dieu. La colère de Dieu est satisfaite. Nous sommes donc maintenant en paix avec Dieu. La nouvelle alliance nous procure donc un nouveau prêtre, un nouveau sacrifice parfait qui nous justifie de toutes nos fautes. Nous avons la paix avec Dieu. Mais on a aussi un nouveau temple. Et ça, c'est fascinant. On a un nouveau temple. Je vais montrer le temple tantôt. On a un nouveau temple. Pourquoi? Parce que Jésus est le temple. Alors imagine-toi, tu es toujours dans le lieu très saint. Jésus est le temple. Tu ne sors jamais du temple. Tu ne sors jamais du lieu très saint. Tu es toujours dans la présence de Dieu. Est-ce que j'entends l'Église, le sentier dire amen? Tu es toujours là. Hey, c'est magnifique. Hey, c'est formidable. Jésus est le temple. L'Église est le temple. Nous sommes le temple. Alors, on est toujours, toujours dans la présence de Dieu. Quatrièmement, on a une nouvelle vie, le Saint-Esprit qui habite en nous. Ah, mon Dieu, toute la puissance du Saint-Esprit qui est en toi, qui se plaît à te changer et à te transformer de plus en plus selon le caractère de Jésus-Christ. Il va permettre des expériences dans ta vie et parfois ces expériences seront douloureuses, mais parce qu'il est en train de forger le caractère de Jésus-Christ. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on vit certaines expériences, mais il est en train de nous forger, nous transformer. On voit ça dans la vie de Monique Lépine hier soir, comment les années ont rendu cette femme une femme de Dieu. Quel caractère, c'est beau à voir. Cette douceur qu'elle avait, c'est magnifique. Alors, on peut comprendre comment un supplice infâme et la mort la plus cruelle, la crucifixion, est devenue une source d'espoir. On peut comprendre. Vois-tu, la crucifixion de Jésus-Christ est une bonne nouvelle. On n'est plus seul, on a la Trinité avec nous et qui travaille dans notre vie. En nous pour nous transformer, nous changer, nous secourir, nous aider, nous consoler, nous fortifier, nous donner le courage qu'on a besoin. Imaginez, en Jésus, on a une relation avec Dieu. Car Jésus-Christ nous a donné accès à Dieu, nous a fait entrer dans une nouvelle alliance qui nous procure un nouveau prêtre, un nouveau sacrifice, un nouveau temple et une nouvelle vie, une nouvelle sainteté par la puissance du Saint-Esprit qui habite maintenant et qui vit maintenant en nous. Ça veut dire qu'on ne sera plus jamais seul, plus jamais. Tu ne seras plus jamais seul. Et dans les moments difficiles, le Seigneur va t'accompagner, va te donner de la force à faire face aux épreuves auxquelles tu seras exposé. Il va te donner la force quand tu en as besoin. À ce moment-là, il va te donner sa grâce pour que tu passes à travers. Puis pas juste que tu passes ou que tu survives, mais que tu glorifies à travers même tout ça. Que même ta vie puisse devenir même une adoration, même dans les moments difficiles. Vous savez, dans certains pays à travers le monde, c'est très difficile d'être chrétien. C'est même illégal d'être chrétien dans certains pays. Tu vas même être persécuté, jeté au cachot, en cellule, à cause de ta foi ou simplement parce que tu as parlé de Jésus-Christ. Et c'est arrivé dans un couple, chez un couple, un homme qui avait parlé de Jésus-Christ, justement, à son entourage. Et les autorités l'ont pris, l'ont emmené, l'ont jeté en prison, en cellule. Sa femme a commencé à avoir tellement peur, elle avait peur, elle a commencé à faire une prière. Elle a dit, Seigneur, elle dit, moi, tu me connais. Tu me connais, Seigneur. Tu sais, je suis pas comme mon mari. Tu me connais. Tu sais, moi, je veux pas aller en prison. Ça sent mauvais dans les cellules. Puis, je veux rien savoir de ça. Tu sais, Seigneur, moi, tu me connais. C'est au-delà de mes forces. Ne me tente pas au-delà de mes forces. M'envoie pas cette épreuve-là. Envoie pas d'autres choses, mais pas ça, Seigneur. Puis, je te le dis, là. Moi, j'aurais peur de te renier. Puis, je vais stouler, me dire les noms de tous les chrétiens qui se réunissent en cachette, nous autres, chez nous ou avec chez mes amis. Je te le dis, Seigneur, fais-moi pas ça. Tu sais, j'ai été élevé, moi, dans le confort, aisé, confortable. Je suis habitué à ça. Je suis pas comme mon mari. Moi, je t'offrais pas. Je te dis, Seigneur, j'ai peur de me trahir. Alors, elle fait cette prière-là. 3 jours après, la police arrive. Frappe aux portes, prend la femme, puis la femme, juste avant, fait une prière. Elle dit, Seigneur, je te l'avais dit de pas m'envoyer ça. Alors, écoute, quoi qu'il arrive, là, je t'aurais averti, Seigneur. Je t'ai averti, là. Alors, moi, là, je me contrôlais pas, Seigneur. Je te le dis, là. Alors, c'est pas de ma faute. Je te l'ai dit. Puis là, la police la prend, bande ses yeux, l'emmène dans une cellule en prison, rentre en cellule, rentre en prison pendant des heures, il la laisse là, pas un mot. Ça sentait mauvais. Ah, c'était épouvantable. Après quelques heures, pendant des heures après, les gars viennent, la sortent de la cellule, l'emmènent devant l'officier. Il enlève son bandeau et tout ça, là, puis là, elle se retrouve devant l'officier. Et tout d'un coup, elle raconte ceci. Elle dit, tout d'un coup, j'étais devant l'officier, puis là, il y a une paix qui m'est tombée dessus. La paix de Dieu m'est tombée dessus. C'était incroyable. Toutes mes peurs étaient parties. Puis là, elle a commencé à prêcher l'Évangile. Puis elle regardait l'officier en avant, puis elle dit, « T'as besoin de Jésus-Christ. Jésus est venu pour te sauver. T'as besoin de son pardon. Tes péchés sans ça, tu seras pas pardonné. Puis ça va être la perdition qui t'attend. Jésus est venu pour te sauver, te donner la vie éternelle. » Et là, l'officier est en colère. Il dit, « Quoi? Tu commences pas à m'évangéliser? » Là, il commence à crier après elle. Il dit, « Emmenez-la dans la prison, dans sa cellule. Je veux rien savoir. Toi, tu sais pas ce qui t'attend. Attends, tu vas voir ce qui s'en vient. » Puis là, ils l'ont envoyé dans la cellule. 3 jours après, en pleine nuit, l'officier s'en vient de retrouver. Ouvre la porte, entre. Elle avait peur, elle dit, j'avais peur qu'il me viole ou qu'il me batte. Avec ce que j'avais dit, tout ça, il s'assoit à côté de moi puis il dit, n'aie pas peur. Elle dit, mon ami, il dit, depuis que tu m'as parlé, je suis plus capable, je fais juste penser à ça. Puis il dit, je réalise que tu as raison, j'ai besoin de Jésus. Puis je crois même que Dieu t'a envoyé ici, en prison, pour me parler de Jésus, parce que j'ai vraiment besoin de Jésus-Christ. Peux-tu faire une prière pour moi? Je veux son salut. Et là, la dame a commencé, Maïne qu'elle s'appelle, elle a parlé pendant 3 heures de Jésus-Christ. Puis après 3 heures, le gars a commencé à prier, puis a demandé à Jésus de pardonner ses péchés, puis a demandé à Jésus d'entrer dans sa vie. Vous savez quoi? Quelques jours, quelques temps après, Maïne et son mari ont tous les deux été relâchés. Puis ils rencontrent régulièrement cet officier-là avec sa femme qui s'est convertie. Puis ensemble, ils étudient la parole de Dieu, puis ils grandissent dans leur foi. Incroyable. Voyez-vous, mes chers amis, nous ne sommes pas seuls. Marchons avec le Seigneur. Parce que la Trinité est de notre côté grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, on veut tellement te remercier pour tes grandes bontés et surtout pour le sacrifice de Jésus-Christ qui est le témoignage ultime de ton amour. Seigneur, on part d'ici ce matin encouragé de savoir que tu es avec nous, que maintenant tu es de notre côté. Et tu nous protèges, tu nous gardes, et rien ne nous arrive dans notre vie qui soit en dehors de ton contrôle et de tes bontés. Même les épreuves de notre vie, tu t'en sers pour faire avancer ton œuvre et glorifier ton Saint-Nom. Donne-nous de nous en rappeler, Seigneur. Et cette semaine, quoi qu'il arrive, au bureau, au travail, dans nos familles, même dans les moments difficiles, Seigneur, donne-nous de nous rappeler que notre vie est entre tes mains. Tu es de notre bord. Tu es avec nous, Seigneur. tu nous aimes au point d'envoyer ton Fils sur la croix pour nous sauver. Alléluia, Seigneur. Amen.